Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités. Participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
Le 25 août a lieu la Nuit des idées à Adélaïde, un événement dédié aux transformations digitales organisé à l'initiative de l'ambassade de France et en partenariat avec le centre Jean Monnet d'Adélaïde et le musée de l'innovation. Cédric Buche est spécialiste de l'interface homme-machine et sera présent à la Nuit des idées pour présenter ses travaux. En attendant, il nous fait le plaisir d'être avec nous sur les ondes de Radio SBS. Cédric, bonjour.
Bonjour.
Avant tout, pour commencer, qu'on comprenne bien en quoi consistent vos travaux.
Alors nous, on travaille sur de la robotique sociale. Donc il s'agit de robots humanoïdes, donc des robots qui ont des jambes, des bras, une tête, voilà, qui ressemblent un petit peu à un humain, et qui sont en interaction avec l'humain. C'est-à-dire que c'est des robots qu'on souhaite mettre chez des personnes, chez vous, dans un appartement, dans votre salon, de façon à interagir avec vous et à éventuellement vous aider à faire certaines tâches. Et donc l'idée, c'est que ces robots soient placés dans des foyers isolés ou des personnes dépendantes. L'idée, c'est pas de se substituer à une aide médicale ou à un autre humain, c'est plutôt de mettre ce type de robot là où il y aura personne de toute façon. Et donc ça crée un lien social et ça peut éventuellement aider des personnes à effectuer certaines tâches.
C'est seulement des mouvements ou ces robots sont équipés de la parole, si je puis dire?
C'est vraiment un petit peu comme des humains et donc ils ont une capacité de voir, ils ont des caméras, ils ont une capacité d'entendre. Ils ont une capacité de parler, ils ont une capacité de déplacement et ils ont une capacité de préhension. Donc c'est vraiment le robot humanoïde qu'on peut s'imaginer, qu'on peut voir dans des films. Donc on peut leur parler, leur demander comment ça va, ou leur demander de faire quelque chose, ou simplement interagir avec eux pour jouer à un jeu ou ce genre de choses. Et eux vont nous, s'ils comprennent bien sûr ce qu'on leur demande, ils vont nous répondre. Et éventuellement mettre en œuvre soit de la navigation pour se déplacer dans la maison, soit de l'appréhension pour prendre des objets, nous les amener, ou simplement jouer avec nous aux cartes, ou puissance 4, ou ce genre de choses.
On se doute bien qu'il n'y a pas quelqu'un en train de contrôler ce robot en direct à distance, donc tout ça c'est préenregistré dans l'intelligence artificielle du robot.
Nous, nos travaux de recherche, donc moi je travaille au CNRS, c'est de mettre ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle embarquée. C'est-à-dire que c'est des programmes qui simulent de l'intelligence. Alors, il faut être très relatif. Nos robots ne font pas grand-chose pour le moment. Donc, l'idée, c'est qu'on ait une interaction avec ces robots qui soit proche de celle qu'on aura avec un humain. Donc, tout le monde a déjà expérimenté ça. Hein, quand vous testez avec OK Google, par exemple, sur Internet, vous posez une question et que Google vous répond. Ou si, par exemple, sur Facebook, vous taguez une personne sur une photo, Facebook est capable d'automatiquement taguer la personne par la suite parce qu'il reconnaît que c'est la même personne. Voilà, donc ça, c'est des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on a dans le quotidien, on va dire. Votre GPS aussi fait ça pour la navigation. Nous, on a mis ça en gros dans le robot. On a quand même des considérations assez éthiques, c'est-à-dire qu'on a décidé de se déconnecter d'Internet. Donc, ce n'est pas Google qui va traiter l'information, ce n'est pas Facebook, c'est nos algos à nous. Alors, pourquoi on a fait ça? Parce que d'un point de vue éthique, on a décidé qu'il était complètement inconcevable qu'un robot chez vous transmette de la vidéo ou du son chez Google ou Facebook. On préfère que ça reste dans le robot, parce que les images de chez vous, c'est pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Donc, notre travail, il a consisté à ça. Il a consisté à prendre ces algorithmes qui sont très, très évolués et à les mettre dans un système de type robotique. Donc c'est quand même assez compliqué puisque le robot il a une caméra qui n'est pas terrible. En plus, il faut imaginer que le robot, sa caméra est dans ses yeux et vu qu'il bouge, la caméra bouge tout le temps. Le son, il peut être un peu bruité. Il faut imaginer un salon où il y aura éventuellement la télé qui sera allumée, la personne vous parle en même temps, donc c'est pas super simple. Mais c'est le travail de mon équipe de recherche qui est constituée de doctorants, post-doctorants et de stagiaires d'arriver à mettre tout ça en musique. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait. Donc on a mis ça en place pour ce que vous évoquez, la RoboCup, qui est le championnat du monde de robots. Et ça s'est bien passé cette année. On en était à Bangkok, ça s'est vraiment très bien passé. Et c'est ça qu'on va montrer le 25 pour Confluence et qu'on espère faire partager avec le public.
Alors ça s'est tellement bien passé à Bangkok que vous avez gagné.
Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était ça. On était contents.
J'imagine.
L'idée, c'est de mettre le robot en situation dans un faux appartement avec des juges qui sont des gens indépendants pris dans le public. Et on demande à ces gens de solliciter le robot pour faire différentes tâches. Donc, par exemple, hein, le premier jour, ce qui était demandé au robot, c'était de rentrer dans l'appartement, de détecter qu'il y avait un humain dans la pièce, donc c'était la personne qui habitait là, et de répondre à ses exigences. Alors nous, par exemple, la personne a demandé à ce que notre robot aille dans la salle de bain, récupérer une éponge et revienne pour nettoyer une partie de la cuisine. Voilà, tous les jours, vous aviez comme ça des nouveaux cas d'études. Des points étaient attribués, il y avait plusieurs équipes, et au fur et à mesure, donc on cumule des points comme ça. Et donc nous, on a gagné, donc on était vraiment super contents. On était en compétition avec d'autres équipes. Donc l'équipe qui a fait deuxième, c'était une équipe qui venait de Colombie. Et l'équipe qui a fait troisième, c'est une équipe suédoise.
Donc, vous êtes plusieurs équipes de chercheurs étalées dans le monde entier à travailler sur la même machine dans le but de développer l'intelligence artificielle.
Exactement.
Comment vous avez pu tous avoir le même robot? C'est ça que je ne comprends pas bien, parce que du coup, c'est pas
Alors,
vous et votre équipe qui l'avez pensé, ce robot.
donc c'est un robot, tout le monde a le même. Donc c'est comme si vous preniez une course de voiture et puis tout le monde a la même voiture. Voilà, ça c'est le truc de base. Nous, notre valeur ajoutée, ça a été sur la programmation du robot. C'est-à-dire que quand il est vendu, le robot, il sait pas faire grand-chose, même on va dire rien du tout. Et donc il faut le programmer. Et donc nous, ça a été notre valeur ajoutée.
Comme
Donc
des
on avait
parents
en
qui
effet.
éduquent un enfant, vous allez mettre de l'intelligence à l'intérieur de votre robot.
Exactement. Donc c'est une très bonne comparaison. Donc le robot savait rien faire. On lui a appris par des algorithmes. Et nous on a aussi une démarche qui d'apprendre au robot par interaction. C'est-à-dire qu'on interagit avec notre robot et au fur et à mesure il apprend de ses erreurs. Donc typiquement je vais lui pointer du doigt un objet et je vais dire ça c'est une bouteille. Et le robot va détecter qu'il y a un objet. Il sait pas trop ce que c'est, mais maintenant je lui ai expliqué que c'est une bouteille. Donc la fois d'après s'il retrouve un objet qui ressemble. Il va penser que c'est une bouteille et je vais pouvoir le conforter. Si c'est pas exactement une bouteille, je vais dire oui, ça c'est aussi une bouteille. Donc voilà, on fait évoluer le robot en même temps que nous. Quand il a été chercher par exemple l'éponge, alors que franchement le contexte était vraiment très ébruité, c'était un étudiant de Bangkok qui lui a demandé ça, donc avec un accent pas possible, et que le robot s'est déplacé vers la salle de bain et a commencé à chercher l'éponge. J'étais hyper fier, comme si votre enfant fait quelque chose de bien à l'école, quoi. Et donc, les personnes qui auront la chance de venir le 25, vous verrez, c'est un robot qui est assez attachant. Bah, tout le monde l'adore. Les enfants vont tout de suite aller lui faire des bisous parce qu'il a vraiment un physique très sympa. Et moi, personnellement, mes enfants, ils dorment avec ce type de robot comme un doudou, quoi. Même
Il a
s'il
un
est
nom?
très gros. Ah, il s'appelle Pepper. Il fait 1 m 20.
Ah, quand même, c'est
Voilà.
un gros doudou.
Ah, c'est un gros doudou. Mais très très sympa.
Combien de kilos?
Ah, il doit bien faire 20 kilos.
Vous disiez que l'objectif, c'est de l'implanter dans des foyers, notamment avec des personnes isolées. Est-ce que vous pensez que ça va être bien accueilli?
Alors, il y a eu énormément d'expérimentations qui ont été faites par nos collègues psychologues. Donc, il est très bien accueilli. Il faut bien se mettre dans un contexte particulier, hein. On parle, par exemple, de personnes isolées ou dépendantes, tous les deux. C'est-à-dire des gens qui sont la plupart du temps tout seuls chez eux et qui
Mais
croisent pas
également,
grand
du coup,
monde
des gens
et...
qui souvent sont des personnes âgées, j'imagine, qui ont déjà eu
Exactement.
pour la plupart du mal à, non pas accepter, mais à comprendre la modernisation, notamment avec les smartphones, les téléphones, Internet. Et là, on leur dit maintenant que c'est un robot qui va s'occuper d'elles. C'est quand même un choc générationnel pour ces personnes qui peuvent avoir 80, 90 ans.
Enfin, ça se passe plutôt bien au niveau de l'acceptation parce que justement, contrairement à un téléphone ou à Internet, il faut avoir des notions de base et honnêtement, c'est pas forcément simple, même pour nous. Alors que là, c'est un robot qui a une représentation physique avec qui on peut parler. Donc, c'est des choses qu'on fait habituellement. C'est-à-dire parler à quelqu'un, on le fait, quoi. Donc là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on n'a pas de barrière technique. La barrière technique, c'est nous chercheurs qui l'avons cassée. Donc, dans ce cadre-là, ça se passe bien. Alors, ça se passe même bien en entreprise. Alors, ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est très surprenant, par contre. J'ai, par exemple, été dans une entreprise au centre de la France où on a implanté ce genre de robot à la place des humains. Et les humains, en fait, devaient superviser les robots. Et en fait, les caractéristiques de tous ces gens en entreprise, il y avait à peu près 50 personnes, c'est qu'ils avaient tous été opérés des deux épaules. Ils avaient un travail extrêmement manuel. Ils devaient déplacer des bouteilles. Et à force, avec le temps, les épaules étaient bousillées. Et donc là, ce qu'on leur a proposé, c'est arrêter de faire ça. C'est pas bien qu'un humain fasse ces gestes répétitifs. C'est très mauvais pour sa santé. Ce qu'on vous propose, c'est un robot va le faire à votre place. Et vous allez surveiller le robot. C'est-à-dire que si le robot fait quelque chose de mal, ou s'il y a un problème de sécurité, ou s'il arrive, il s'en sort pas avec ses bouteilles, là, vous allez stopper le système. Vous allez faire donc des tâches un peu plus intéressantes, entre guillemets. Et en fait, les gens étaient hyper contents, quoi. Et ça a résolu un certain nombre de problèmes, notamment physiques. Et en fait, il y a même eu la création d'emplois. Parce qu'en fait, pour s'occuper de ces robots, il faut bien comprendre qu'il y a donc quelqu'un doit surveiller le robot, mais il y a aussi des gens qui doivent les maintenir, comme on maintient une voiture. C'est-à-dire qu'il y a un entretien à faire, un peu comme une révision. Et finalement, ça s'est vraiment bien passé.
Et est-ce que là, on parle plutôt de court terme, moyen terme, long terme? Dans combien de temps on pourra voir Pepper chez des gens?
Alors, Pepper, notamment en France, il y a des expérimentations. Donc, les gens qui sont allés dans des concessions Renault, il y a tout le temps un Pepper à l'accueil, à l'entrée, donc qui ne fait pas grand-chose, mais c'est une expérimentation. Dans certaines gares SNCF aussi, il y a certaines banques, donc c'est Softbank Robotics hein, qui a racheté ce robot, donc c'est une banque qui, pareil, n'avait plus personne à l'accueil. Plutôt que d'avoir plus personne à l'accueil, ils ont mis leur robot. Ce n'est pas du court terme sur des tâches cognitives. Là, c'est du court terme sur des tâches très simples, voilà, de type automate. Alors, sur des tâches un peu plus élaborées, c'est plus du long terme. Mais bon, on le voit, la voiture autonome, etc., c'est ce qu'on appelle long terme, c'est-à-dire dans 10-15 ans.
Donc pour ceux qui vivent en Australie et notamment du côté du South Australia près d'Adélaïde et qui veulent rencontrer Pepper, on leur donne rendez-vous le 25 août à Adélaïde pour la nuit des idées où vous serez présent Cédric Buche puisque vous allez présenter Pepper. Merci beaucoup Cédric.
De rien.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/French ou téléchargez l'application SBS Radio.